création on air.
On air.
On air. Creation on air.
Bonsoir. Vous vous souvenez, vous avez 7 ans. Au cimetière, vous osez pousser la porte dégondée d'une crypte. Obscurité, odeur de poussière d'un autre temps et peur secrète. Vous avez 12 ans. Vous entrez dans une maison barricadée au-dessus d'une carrière abandonnée. Là subsistent les traces d'une vie de squatteur interrompue. L'idée que ce lieu est dans l'instant totalement vôtre. Vous avez 20 ans. Une amie vous entraîne sous terre pour une fête improvisée dans le réseau souterrain parisien. Une grande salle, quelques bougies. Les voix résonnent ou s'enfuient vers d'autres salles. Joie du secret et de l'interdit. Le producteur de ce soir accompagne en exploration nocturne sur des sites abandonnés 3 youtubeurs, Florian, Julien et François. En exploration nocturne avec Mamie Twink, on dirait que Gilles Mardi-Rossian, création on air.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se situe actuellement à 3130 mètres d'altitude.
Bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je suis avec François.
On part à l'autre bout de la France, on va en Normandie. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je suis au beau milieu du sommet au sommet d'une montagne dans l'est de la France. Et je suis venu visiter la clinique.
Salut à tous, je suis avec François et Zeka.
Salut, salut.
Et aujourd'hui, une grosse aventure nous attend. On est dans les Alpes et on va gravir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je suis avec Zeka.
Bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations nocturnes. Aujourd'hui,
avec François et on est au sommet d'une montagne. On va visiter une base radar abandonnée. Putain. Vraiment un truc de dingue. Oh putain.
Fantine, quoi. On dirait que là, on s'amuse à se faire peur en racontant des histoires.
Et si on faisait des explorations nocturnes?
Ah ouais, ça serait un de mes rêves, tu sais.
Dans des lieux abandonnés.
Ah ouais, ouais.
Genre
moi, je suis
maison hantée.
Et si on était des explorateurs?
Ah ouais, quand j'étais enfant, il y avait un lieu qui nous intriguait tous avec les copains. C'était les anciennes mines de l'Arbède, près du Luxembourg. Faut savoir que j'habitais chez mes parents à Audintiche, c'est un village vraiment frontalier. Et en fait, il y a ces anciennes mines, donc ces anciens bureaux. Donc il y a des qui sont laissés à l'abandon, il y a des mines. Et c'est vrai qu'on se faisait un petit peu peur en allant, en rentrant dedans. On aimait bien rentrer dans les bureaux abandonnés, récupérer des plans. On n'y comprenait rien. On avait quoi, peut-être 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, allez. On se promenait, on faisait un petit peu mission infiltration. On aimait beaucoup faire ça et les mines, c'était assez dangereux. Je me rappelle que plusieurs fois, on s'est fait sévèrement remonter les bretelles. Mais c'était un peu l'aspect, la curiosité du gamin qui passe devant ce lieu et qui dit « Mais pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il y a dedans ?»
Dans ma maison d'enfance, depuis toujours, il y avait une maison en face, un grand manoir, qui était abandonné. J'y ai vécu de l'âge de 8 ans à 20 ans. Et pendant ces 12 années, le manoir qui faisait face à ma chambre était abandonné. Et pendant 12 ans, je me suis demandé si, qui cachait, il faisait peur en fait. Il faisait tellement peur que j'ai jamais osé aller dedans. Et je me souviens de vers la fin, quand je devais avoir 19-20 ans, des héritiers qui venaient petit à petit vider le manoir et c'était un peu comme. On y voyait donc des portes ouvertes, des gens qui passaient, enlevaient des affaires. Et c'était fou parce que pendant. plus de 10 ans, il avait été presque sous scellé, ce lieu. Et puis le voir comme ça, avec des gens qui rentraient dedans, ça faisait bizarre. Et encore régulièrement, je fais des rêves de ce manoir. En fait. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, on visite des lieux abandonnés très régulièrement. Et en 12 ans, j'ai jamais osé mettre les pieds dans ce bâtiment. Bon, depuis, il a été détruit, transformé en résidence.
Je suis né à Metz, j'ai grandi à Metz. Il y a toute la ceinture de fortifications, que ce soit au Mont-Saint-Quentin, il y a des forts. Parmi les tout premiers que j'ai vus, c'est le fort de Queuleu. C'est les casemates du fort de Queuleu. Parce que j'avais mes grands-parents qui habitaient à Queuleu. Donc mes parents m'ont emmené faire un parcours de santé. Et le parcours de santé, il est un peu perdu dans les casemates. Vous avez entendu ?
Oui.
C'est le vent, je crois. Vous me dites ?
Oui. Est-ce que tu peux reprendre la balade de santé ?
Eh bien, du coup, comme mes grands-parents habitaient à Queuleu, mes parents m'emmenaient souvent faire le parcours, bon, pas le faire, mais au moins se balader au parcours de santé du fort de Queuleu. Et donc il est entouré de casemates qui sont laissés à l'abandon. Donc forcément, on est allé dedans, mais c'est plutôt des souvenirs chaleureux et agréables, plus que des frayeurs d'enfants qui va braver l'interdit pour aller visiter des trucs abandonnés.
C'était un peu le défi d'avoir cette adrénaline qui monte au moment où. T'es sans ce décuple où tu sais que t'es dans un endroit où t'as pas forcément le droit d'être et le moindre faux pas fait qu'on va te repérer. C'était quelque chose qu'on aimait beaucoup parce que finalement on était dans des bâtiments abandonnés, c'était assez innocent ce qu'on faisait et ça nous procurait des sensations un peu voilà, comme des aventuriers, des explorateurs. On aimait beaucoup ça.
Tu sais pourquoi ?
Pourquoi ?
Eh bah parce que je sais pas ce qu'il y a dans le noir, tu vois. Il peut avoir une personne, il peut avoir des objets tranchants, mais je sais pas, tu vois.
Donc... Oui, c'est ça, tu sais jamais en fait ce qui va se passer.
Une forêt de nuit. Une cave. Tout ce qui est sujet à l'obscurité en fait. Moi ça m'a toujours effrayé l'obscurité. Moi, ma peur, dans la nuit, c'est ce qui se cache derrière. C'est l'inconnu qui se cache dans l'obscurité.
Et toi, François, les lieux ?
Les lieux qui font peur ? Je sais pas. Moi, j'ai toujours eu peur des lisières de forêt. Je me souviens quand je. Mais même pas en. Même un peu plus vieux, hein, quand j'ai eu le permis, que j'ai fait mes premiers trajets seul en voiture sur des routes un peu de campagne où t'as de la forêt à gauche et à droite. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe si il y a un truc chelou qui sort de la lisière, qui se met devant ma bagnole. C'est pas la forêt, une fois que t'es dedans, t'es bien, mais c'est plus la transition civilisée vers l'intérieur de la forêt qui fait peur. Inversement.
Hey, Vantine, imagine, là on marche seul dans une grande forêt noire la nuit.
Ouais, mais juste, c'est quoi ce grand truc là-bas là ?
Je sais pas.
On va voir.
Là on va traverser la forêt pour accéder au lieu. On passe par derrière en fait. On pourrait passer par la route devant, mais c'était beaucoup moins discret. Surtout qu'il y a encore une partie de l'hôpital qui est en activité. Donc on se rend discret, on se faufile dans le lieu. On va passer par derrière par une forêt derrière, il y a environ 15 minutes de marche.
Et là, si je me tourne avec le faisceau de ma lampe, là, comme ça, vers la forêt, qu'est-ce que la lumière révèle de l'obscurité ?
Donc là, on voit des troncs de sapins, les premières branches des sapins. Il peut révéler des champignons blancs, des éléments blancs qui vont ressortir dans la nuit. On peut révéler des animaux, des yeux de renards, de chevreuils. Mais
Tu vois, moi, je trouve ça pas très rassurant comme vision, ce genre de forêt, parce que souvent, dans les fictions, c'est dans ces forêts où se passent les choses, où ça tourne mal, en quelque sorte, dans les films d'horreur et tout.
Alors, tu dis Projet Blair Witch, par exemple ?
Ouais, bah, Projet Blair Witch est un film qui m'a fait très peur, et justement, ça fait très penser au Projet Blair Witch, ce genre de décor. Et c'est bête, parce que c'est juste un film, c'est de la fiction, mais je pense que quand un film te marque autant, forcément, ça reste gravé quelque part dans ton esprit, et tu associes même inconsciemment ce type de décor avec ce que t'as vu.
Le ruisseau, mais c'est un ruisseau qui est bien gonflé, c'est là.
Il est devenu gros, là. Il a beaucoup plu, donc forcément, il y a beaucoup d'eau, ouais. Je pense là, c'est à gauche, hein.
Ouais, c'était par là qu'on était passé.
Donc là, François, t'as abandonné le GPS, et là, tu te sers tes oreilles, en fait, pour diriger, c'est ça ?
Ouais. Je sais qu'il faut qu'on descende, et comme l'eau descend... Je me dis qu'il faut qu'on suive le ruisseau. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le suivre de trop près parce que il y a beaucoup plus ces derniers temps et tout à côté est bien humide et bien trempé. On va y laisser nos chaussettes si on s'approche trop.
Mais ça fait quoi cette relation à la nuit, dans la forêt, lorsqu'on est seul ? Par exemple, comme toi, tu l'as vécu, par exemple.
Moi, je suis d'un naturel à beaucoup aimer la forêt et la nature quand il fait jour. C'est beau, c'est magnifique, c'est ultra apaisant. Et la nuit, c'est très bizarre. Il y a comme des peurs d'enfants qui reviennent et qui s'installent. C'est-à-dire qu'on voit moins les choses, donc on maîtrise peut-être un peu moins les choses. Et c'est sûr qu'on est sur le qui-vive. On est plus prêt à parer à tout éventuel danger, bah, tout simplement parce qu'on voit moins. Vous avez bien vu, on a marché, on s'est pas enfoncé longtemps, mais au bout de 5 minutes, on s'est tous un peu tus, on marchait, on regardait devant nous et on est plus vigilants.
On est dans le noir complet dans la forêt là, je peux vous dire que ça fait grave flipper.
Et le fait d'être seul dans une forêt, si on reprend par exemple les contes de Perrault, le petit poussé, où tout d'un coup les enfants se baladent dans la forêt en égrenant des cailloux parce qu'ils sentent bien que quelque chose ne va pas. Et tout d'un coup la nuit arrive vite, le vent se lève et ils prennent peur, ils ont l'impression que le bruit du vent, bah, c'est le son des loups. Dans l'imaginaire de l'enfance, la forêt prend tout de suite une dimension dingue. Et le fait d'être seul, ça doit renforcer complètement cette...
Ben, c'est sûr que ça vit énormément la forêt, que ce soit le jour ou la nuit, il y a des tonnes de bruits. Et on ne peut pas à chaque fois expliquer tous les bruits, donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où il faut se dire bon ben là j'ai pas compris ce que c'était, mais je dois laisser couler. C'est-à-dire je dois arrêter de me poser 10 000 questions parce que sinon ça va pas bien se passer. Et c'est vrai que on s'imagine tout de suite des choses. Quand les enfants dans le petit pousset ils prennent le bruit du vent pour le bruit des loups, ben, ça peut arriver plein de fois, on prenne simplement le bruit d'un avion qui passe dans le ciel pour autre chose et on se met à se poser des questions. Et des fois, c'est simplement dans notre tête. Et là, c'est encore différent parce qu'on va visiter un hôpital abandonné, qui est un lieu qui peut être visité par d'autres personnes avec des dangers, des menaces différentes que si on était simplement dans la forêt à bivouaquer, à être plus en harmonie avec la nature. Là, ouais, la finalité, c'est pas de rester dans la forêt, c'est de traverser la forêt pour atteindre un objectif.
Ok, il se rapproche.
Il est juste là, mec. Énorme.
C'est quoi la lumière là-bas ? Là-bas à gauche. Tu vois ?
Ouais. Je l'ai vu, mais en fait, quand tu la regardes pas directement.
Non, mais c'est, je l'ai bien vu, je la vois plus, même en bougeant à gauche et à droite. Attends, vas-y, on passe en rouge. Faut qu'on aille voir.
Tiens, en fait, là, j'ai aperçu de la lumière au loin, donc je sais pas si c'est d'autres explorateurs, un gardien. Donc on va aller checker. Mais tu vois, moi je vois de la lueur qui est projetée. Hein.
Où ça ?
C'est éclairé. Ouais. Enfin...
Attends,
Il y a quelqu'un.
Ouais.
Le pire, c'est de la surprise, c'est horrible.
Oui, non, mais on va se présenter, mais... J'aimerais savoir ce que c'est.
Si c'est un... quelqu'un, c'est sûr.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est...
Si c'est un gardien, on va dans un autre spot. On va dans un autre spot, c'est pas grave. Mais on joue pas au chat et à la souris, ça n'a pas de sens. On est d'accord sur ça.
On est d'accord.
Donc on va se présenter. Go. On va se présenter, on est d'accord.
Attends, mais je vais attendre de voir.
Non, mais je l'ai vu, on l'a vu, hein, c'est sûr. Il a fait comme nous, il a allumé et éteint sa lumière.
Tom, et si on joue aux aventuriers qui explorent un hôpital abandonné?
Moi, perso, j'aurais peur qu'il y ait des gens qui est dans un hôpital abandonné, j'aurais peur qu'il y ait des gens qui soient restés, quoi. Et ça fait un petit peu peur, ça.
Moi, ce serait plutôt, tu sais jamais en fait ce qui va se passer. Qu'on entend des voix, mais qu'on voit personne.
Je peux cacher mon lumière.
Je vois deux personnes. Il y a un petit chien avec.
Ok, bon, on se présente alors.
C'est des promeneurs qui ont fait allumer la lumière.
Promeneurs ou gardiens?
Il part en courant, il se cache. Il se cache, mec, c'est ridicule.
On va aller les voir alors.
Deux nuits d'autres explorateurs, c'est jamais arrivé.
Donc là on a vu des silhouettes.
Ouais,
et des lampes qui se sont.
Bonsoir.
Qui sont carapatées.
Bonsoir. Y'a quelqu'un?
Bon, en gros, là, petit point sur la situation, on vient d'arriver à l'hôpital. Il y a d'autres explorateurs qui étaient là, on a vu deux personnes avec un chien. En fait, on était tous les quatre dans le noir complet pour les observer. Et au moment où on a allumé les lampes torches, ils sont barrés en courant.
Ok, ça vient, tu vois ça peut-être. On est passé avec Gilles. De l'autre côté à nouveau, de là où on vient. On a aperçu des faisceaux, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on va essayer de les repérer.
Là-bas, j'ai vu des faisceaux. Ils font quoi?
Il y a quelqu'un?
Ok, ça fait environ 20-25 minutes qu'on joue au jeu du chat et de la souris. Là, on va essayer d'aller les retrouver à l'intérieur du bâtiment.
Ouais, mais en fait, vous venez visiter, c'est ça?
Ouais.
Et du matos, là.
Ouais, et il y a d'autres personnes qui se cachent à l'intérieur, on les cherche, en fait.
Ah,
ouais. Je vois, cache-cache. Il y avait deux personnes avec un chien, et en nous voyant, ils sont cachés à l'intérieur, donc on essaie juste de les retrouver pour leur dire que, voilà, on est juste des explorateurs.
Bon, moi, je crois que mon chien, s'il vous voit, il vous bouffe. Bah, voilà. C'est pour ça qu'on le prend avec.
Il faudra lui dire qu'on est des amis.
Ah, ouais.
Au moment où on arrive à l'hôpital, on repère deux autres explorateurs qui sont là en train de parcourir le bâtiment avec leur lampe torche. On coupe toutes nos lumières, on se met dans le noir et on les observe. François filme distinctement deux personnes et un chien. À ce moment-là, on décide d'allumer nos lumières afin d'aller nous présenter à ces deux explorateurs. Au moment où on active la lumière, ces personnes s'enfuient. Pendant près d'une demi-heure, on les cherche, on ne les trouve pas. Et au bout d'un moment, une voiture arrive avec deux nouveaux explorateurs dedans. En fait, les amis, les deux explorateurs du début et les deux explorateurs de la voiture, ce sont les mêmes personnes. En fait, lorsque je rencontre ces deux personnes en voiture, je leur dis naïvement, ouais, on a croisé deux explorateurs et au moment où on a allumé la lumière, ils se sont enfuis. On ne sait pas où ils sont, ils se sont cachés dans l'hôpital, on ne les voit plus. Et eux font genre, ah oui, d'accord, oui, vous êtes nombreux, vous avez dû leur faire peur. Bref, on discute avec eux, on se retrouve même devant l'hôpital, on discute avec eux et on se doute de rien. Et en fait, c'est le lendemain du tournage, au montage, que François se rend compte
que sur le plan des deux explorateurs du début et sur le plan des deux explorateurs de la voiture, ils sont habillés de la même façon. On le voit distinctement sur les deux plans.
Ils rôdent toujours potentiellement autour.
Bien, bien sûr.
Mais même, tu vois que t'en fasses un cauchemar. Parce que c'est un coup à mal dormir. Tandis que là, si on va les voir, qu'on se rend compte qu'on se présente et tout, mais bon, s'ils se cachent, on va pas les trouver.
Je pense vraiment qu'ils ont eu peur.
Ouais, on les a filmés. On voulait leur dire bonjour et on voit à la caméra, ils se sont jetés dans le buisson à côté pour se cacher.
Et ouais, du coup, je pense qu'ils sont partis, ils sont enfuis de peur, quoi.
Sinon, ça va, ça vous plaît?
Ouais, ouais, il est sympa. Hein. Vous étiez déjà venu aussi ou pas?
Une fois. J'ai un ami qui fait beaucoup d'urbex et de temps en temps, quand il se promène, bah, il me raconte ses péripéties à droite à gauche.
D'accord.
C'est ça qu'il m'a dit, ah, il connaît un vieux bâtiment, c'est ça qu'on est venu voir une fois en journée. Ah, je devais aller voir la nuit une fois.
Moi j'ai connu ça que c'était encore un hôpital.
Ah ouais, sérieux?
Et en fait, quand vous étiez venu, c'est quand vous étiez gamin presque?
Oui, oui, j'étais gamin. C'est, on était venu avec l'école, c'était avec l'Arena Street qui venait visiter l'hôpital. Et après, avec l'école, on était en bordure de route pour voir l'Arena Street.
Oui,
elle était venue visiter l'hôpital.
Ah,
donc vous avez vraiment la mémoire du lieu.
Ouais, moi, ouais. Ouais, je suis né ici dans la région, donc je connais vraiment bien tout ça.
Il y a le truc qui se dégage en journée, quand on se met là, et qu'on voit le magnifique. Nous, on avait, la première fois qu'on est venu, on a réussi à monter jusque tout en haut de la tour, et là, on a une vue à couper le souffle. On voit toutes les routes qui partent dans les villages. C'est assez impressionnant. Là, par contre, pour trouver les chemins, il faut sortir du bâtiment, regarder devant vers, repartir dedans, et tout le temps, parce que c'est catastrophique pour se retrouver là-dedans. Ça va continuer, bonne balade.
Bah, merci, vous aussi.
Et nous, on va continuer à faire le tour.
Ouais, par contre, ouais, ceux qu'on a croisés, ils avaient visité avec un chien.
Un petit chien.
Mais bon, c'est quasi sûr qu'ils sont partis, mais voilà. C'était sûr, ils étaient avec un chien.
Ouais, je préfère aller faire une tire quand même.
Ouais, ça marche. Bah, bonne exploration en tout cas.
Merci, vous aussi.
Merci, bonne soirée.
Enfin, voilà, bah, messieurs, entrez en matière, hein, nous y sommes. On est au pied de l'hôpital, il est juste devant nous, avec ses innombrables vitres cassées. Et on va pouvoir aller à l'intérieur chercher un endroit où dormir ou passer la nuit.
Donc là, effectivement, c'est très impressionnant. C'est la façade de l'hôpital qui est juste magnifique. C'est un très très beau bâtiment en sorte d'arc de cercle ouvert à plein sud. Et enfin, tu vois dizaines de fenêtres, la tour au milieu. Et on a un mélange, en fait la pierre c'est un mélange de grès et de brique rouge, il me semble.
Est-ce que ça t'inspire un lieu comme ça?
Tu te sens vraiment tout petit quand tu visites un lieu comme ça de nuit. Et c'est dingue parce que ce bâtiment a plus de 100 ans. On peut s'imaginer tous ces patients malades de tuberculose qui venaient ici se soigner. Et ce qui est un peu paradoxal face au bâtiment qui est quand même délabré, qui a été saccagé, vandalisé. Tu es devant une sorte de jardin presque entretenu. Et ouais, ça témoigne de la grandeur du bâtiment, de ce que c'était à l'époque. Là-bas. Ça y est,
On est parti. On est en train d'explorer un hôpital abandonné. Et on va aller en visiter ces moindres recoins.
Ouais, je pense qu'on aime se définir comme des explorateurs. De plus en plus, on cherche à explorer des lieux insolites, inédits, oubliés. Alors on n'est jamais les premiers à les explorer, mais on se plaît à en tant qu'explorateur, faire partie de ceux qui les partagent.
Je sais pas ce que c'était comme ça, là.
Et cette notion d'exploration est super importante. Ça s'appelle les explorations nocturnes. Et je pense que ouais, ça nous colle bien.
Ouais, là, on est dans une très grande salle. Ça pouvait très bien être l'accueil. Ouais. On a une belle hauteur sous plafond, au moins 5 mètres. Un espace gigantesque.
Je pense que tu pouvais rentrer par en face. Donc, à mon avis, c'est un grand hall. D'accueil.
Une sorte de réfectoire.
C'est peut-être un réfectoire. Donc là, on est dans les cuisines de l'hôpital. On a encore d'ailleurs une bonne partie des installations qui demandent gazinières, marmites géantes,
friteuses
géantes peut-être.
Là.
Ah oui, les friteuses. Ouais.
En bas du niveau moins 1. On tombe encore un étage. Je sais pas pourquoi je parle tout bas, mais c'est comme ça dans les lieux de la nuit. On parle tout bas.
Qui est coincé. On peut voir tous les mécanismes.
Si on peut. Il y a beaucoup de courant d'air, si on peut se trouver un truc sans courant.
Cette pièce qui donne vers l'extérieur, toutes les vitres ont été éclatées. Il fait froid, humide, il y a des pièces magnifiques. Ont été explosés.
Alors comme vous pouvez constater, les chambres sont vides, hein. Il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien, il n'y a plus la structure globale.
Il y a des pièces magnifiques. Il y a un petit escalier, c'est marqué enfer.
Ouais,
ça c'est une idée courante hein, dans ce genre de lieu, les gens ils disent c'est un monde des petits parcours avec des flèches pour essayer de dissuader peut-être d'autres explorateurs de monter, tu sais jamais si c'est. Si ça se veut être sérieux ou si c'est de l'humour.
Ce que vous entendez, c'est les débris de porte.
Hey Tom, on dirait qu'on marche tout seul dans un hôpital abandonné.
Ah ouais,
tu sens pas là qu'il y a un peu de vent là, les portes de vent, tu entends pas?
Ouais, et surtout regarde le couloir, il est tellement long qu'on voit même pas.
Regarde ce lit, il est trop épais.
Allez, les amis, je vais partir faire un petit tour en solitaire dans le lieu, histoire de me remémorer un peu les premiers épisodes des explorations nocturnes où je visitais les bâtiments seuls de nuit. Et je me souviens que ça me faisait grave flipper. Donc on s'est lancé le défi avec François, qui sait que je refasse un petit bout tout seul pour me replonger dans l'ambiance de l'époque. Donc je vous emmène avec moi.
Encore, on est monté d'un étage encore. Et encore des chambres.
En tout cas, le lieu est guère rassurant. Je peux vous dire que il y a une petite tension ici. Merde. Oh merde, c'est fermé.
Je suis devant un vieil ascenseur. Ouais, c'est. Il est ouvert.
Il est fermé ici. Ouais, ça s'ouvre. Dans l'autre sens, non. On va aller trouver un autre passage. J'ai vu des escaliers.
m'avance dans un couloir tout noir. Chambre 226.
J'ai entendu un bruit, mais je crois que c'est une goutte.
Les chambres sont plus petites ici, à l'étage. Chambre 228.
Wow.
Tout a été cassé encore.
Voilà, j'ai entendu. J'ai vraiment entendu des bruits.
Imaginez la légie gigantesque, les couloirs sont infinis.
Bah, la tension est au maximum. Je parle pas très fort, je sais, mais... Je suis un peu flippé, là. Toujours particulier.
Et mes amis sont partis, je ne sais pas où, donc je suis tout seul dans le couloir.
De s'aventurer seul
que...
dans ce genre de lieu.
Bah, c'est un peu impressionnant, quand même.
Wow!
On est tout seul là.
Non, mais j'entends des gens marcher. François?
A priori, il n'y a aucune raison qu'il se passe quelque chose. Mais quand même.
François? Bah, ces portes, c'est horrible. Parce que si quelqu'un se cache derrière. Non, mais les gars, je suis pas serein là. Je suis vraiment pas serein. C'est quand même pas mal vide. C'est un enchaînement de salles vides. Mais ça fait. Justement. Flipper pour ça. Parce que la moindre silhouette, le moindre élément. On pourrait croire que c'est. Une présence humaine, quoi. Merde, je sais plus par où on est passé. C'est marrant, c'est très austère pour un hôpital comme architecture. Alors, où est-ce qu'on est, là?
On est, en fait, dans un ancien sanatorium. Les sanatoriums, c'était des hôpitaux qui ont été construits au début du 20e, fin 19e, début 20e, pour soigner les gens malades de tuberculose. Tuberculose, c'était le grand mal qui sévissait à cette époque. On appelait cette maladie aussi la peste blanche.
Oh putain, il avait sursauté. La vitre pas cassée.
Ouais, elle porte encore.
On est en train de se dire quelle chambre on aime bien pour passer la nuit. Il est bientôt minuit. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on arpente le lieu. Et après le petit moment du jeu du chat et de la souris avec les explorateurs qu'on n'aura finalement jamais rencontrés, on a pu rentrer dans le lieu, on visite depuis une vingtaine de minutes l'hôpital pour essayer de trouver la chambre idéale pour la nuit. On a pour le moment mis l'option sur E58, la chambre du patient E58, et on continue à un peu errer, et puis je pense qu'on va bientôt se décider parce qu'il commence à faire tard. Et voilà, en tout cas, passé les quelques moments d'adrénaline du début, on est maintenant à l'intérieur plutôt... serein et s'est approprié le lieu en quelque sorte.
Ça, c'est notre maigre sel de chauffage pour la nuit, un petit réchaud et une bouteille de gaz.
Ça commence.
On va encore attendre un peu. Quoi. En tout cas, ça a de la gueule, hein. Sans plus chez nous. Hein.
Ouais. Ah.
Putain, la bonbonne de gaz, elle est gelée. La givre qui s'est posée dessus et tout.
Une heure du mat. Au lit dans cet hôpital abandonné.
Et enfin, vous aviez peur du noir aussi, comme beaucoup d'enfants ou...
Terrorisé.
Ouais.
Terrorisé.
Non, terrorisé, j'arrivais pas à m'endormir. J'avais des énormes problèmes d'endormissement. Je me souviens que je passais toutes mes soirées, à partir du moment où mes parents me demandaient d'aller me coucher, à essayer de m'infiltrer en douce dans la chambre de mon frère pour pouvoir dormir dans sa chambre. Mais je dormais par terre dans un coin, juste pour être avec lui et pas être tout seul. Mais j'étais un vrai ninja, hein, parce que lui, s'il m'attrapait, il me foutait dehors et m'envoyait dans ma chambre. Et mais c'était la seule façon pour moi de m'endormir calmement. Des fois, mes parents, ils en pouvaient plus, mais ils obligeaient mon frère à m'accepter dans sa chambre. Jusque... Je pense jusque 12 ans, au moins 12 ans.
Ça me rappelle une anecdote. Je devais avoir 21 ans et j'habitais encore dans la maison familiale. Mes parents étaient séparés, donc j'habitais tout seul avec mon père. Et c'était une très très grande maison, plus de 200 mètres carrés. Et mon père était parti tout l'été, pendant 2 mois en vacances. Et pendant 2 mois, j'étais seul dans la maison. Alors déjà, la nuit, j'avais toujours la peur qu'il y ait des voleurs qui viennent et qui me surprennent dans mon sommeil. Pendant les 2 mois où j'étais tout seul dans la maison, donc je travaillais, j'étais en stage au Luxembourg. Pendant les 2 mois où j'étais seul dans la maison, déjà je laissais toutes les lumières allumées. Je me baladais de nuit avec un couteau. Je parlais avec moi-même pour faire croire qu'il y avait des gens avec moi. Et une nuit, j'ai eu une frayeur ultime. Il devait être 1h30 du matin. Je dormais et là j'entends des voix. Et là, je me dis, ouais, il y a quelqu'un.
Vous avez entendu ?
Oui.
Il y a du bruit, là.
Mais je pense que c'est le vent, mais il y aura du bruit toute la nuit.
En fait, c'est fou parce qu'on est à l'intérieur, et comme on est à l'intérieur, c'est comme si on était autour du feu. Là, on est sécurisé parce qu'on est autour, peut-être pas du feu, mais en tout cas, on est à l'intérieur, entre nous. Mmh. Et on se croit protégé, mais autour du feu, en fait, le prédateur qui est tapi dans la nuit peut veiller, nous voir, et nous, on peut ne pas le voir.
Exactement.
Est-ce que vous n'avez pas un peu ce sentiment, là, dans cette pièce ?
Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs... On se faisait des réflexions avec François, lorsque Fabien et toi étiez dans les couloirs. Mais c'est pas pour rien que les tours de garde ont été inventées, c'est que bah, pendant que ton compagnon fait le tour de garde, bah, les autres peuvent se reposer en toute sérénité. Là, il faut se dire que s'il y a un de nous trois qui se balade dans le couloir, qui fait des allers-retours à regarder, veiller à ce qu'il n'y ait personne, le bruit que va faire cette personne couvrira tous les petits bruits qu'on entend. Et même si on entend bruit, on se dit bon, y a mon pote qui est là, qui surveille. Plutôt que d'être tous dans la pièce et tous vulnérables à un potentiel intrus.
En même temps, la situation dans laquelle on est, il faut une sacrée capacité d'attaque quand même pour se rendre vulnérable. On est quand même trois. Puis.
Oui, si tu réfléchis de façon posée, tu te dis mais bon, il ne peut pas nous arriver grand chose. Mais tu as toujours cette part un peu illogique du cerveau, cette part un peu où tu vas te laisser emporter par ton imagination et te dire oui, mais s'il y a quelqu'un tapis dans l'ombre qui vient faisant le moins de bruit possible et tout. C'est effectivement la suggestion de s'imaginer ce qui nous entoure qui peut faire peur. Mais ouais, c'est fou, le pouvoir qu'on sent sur notre perception de la réalité et la façon dont ça déforme notre perception de la réalité.
Il y a des voix.
Alors j'ai entendu des bruits, mais c'est peut-être le vent.
Mm-mm.
Toi, tu penses à quelqu'un ? Il y a des gens ?
Mm-mm.
Tu veux qu'on aille voir ?
Là, je crois que c'est clair.
Juste pour pas être pris. Pour pas être pris. Sur...
Qui ose me réveiller dans mon sommeil.
Il est plus de 3 heures, on a entendu du bruit, je pensais que c'était le vent. Fabien, dans son casque, parce que lui il a le casque avec le micro, il a clairement entendu des voix. Il va essayer de voir qui se balade à 3 heures du matin dans un hôpital abandonné. Va prendre la caméra, vision nocturne pour être plus discret. C'est que c'est dû au vent, on a entendu pas mal depuis plusieurs heures, mais Fabien a entendu dans son casque comme des voix.
Et on a un peu dormi.
Un petit peu.
Il fait très froid ici. Ça caille. Finalement, des bruits, on a entendu des centaines. Le lieu, il vit ici la nuit. Il y avait du vent, donc il y avait énormément de bruit. Mais on a réussi à dormir plus ou moins chacun.
Ouais, je vous l'attends.
Je vais quand même vous en profiter pour vous montrer un peu le bâtiment de jour. Parce que c'est quand même un lieu... magnifique ce sanatorium. Regardez-moi ça.
Vive, tout habillé de rouge, qui nous rejoint pour aller se faire ce petit footing matinal.
Salut Gilles.
Salut Mami Twink.
Salut Fabien. Ça va?
Ça va?
Ouais, en forme, ouais.
On a un joli soleil ce matin, ce qui va nous accompagner pour aller courir un petit peu et se parler.
Enfin, exactement.
Si on peut rester un peu de souffle.
Oui, pas de problème.
T'es bien échauffé, ça va?
Ouais, parfait.
Ok.
Je suis prêt.
On y va? Allez, yes. C'est parti.
Allez.
Alors, est-ce que tu peux me décrire les lieux?
Alors, on court le long d'un canal, le canal de Jouy, qui est entouré de deux chemins, un chemin pédestre et un chemin cycliste. On a l'autoroute pas très loin.
Alors, et la vue sur le mont, là, c'est quoi, en fait, ce qu'on voit en face de nous?
C'est le mont Saint-Quentin. Donc, le mont Saint-Quentin, c'est une colline située aux abords de Metz. C'est une colline qui culmine à plus de 250 mètres d'altitude, donc qui surplombe la ville de Metz, qui surplombe la Moselle. Et c'est un lieu qui me fascine depuis 7 ans. Parce qu'il y a 7 ans, j'y ai découvert les fortifications du 19e siècle qui étaient cachées dans la forêt là-bas. Et c'est vrai que c'est un lieu qui t'appelle parce que au sommet de cette colline, tu as aussi une antenne relais qui est installée et qui est illuminée de rouge la nuit. Donc on la voit constamment depuis le centre-ville de Metz. Et ça me rappelle... de nombreuses expéditions réalisées là-haut à chaque fois que je la vois.
Alors justement, puisque tu parles d'expédition,
ouais.
Vous avez publié des tutos qui sont les règles fondamentales de l'urbex.
Ouais.
En termes de sécurité, est-ce que tu peux m'en parler ?
Les règles que je donnais, c'était avant tout des règles de sécurité, c'est-à-dire de ne jamais y aller seul, toujours accompagné. Si jamais on débute, se laisser initier par des personnes expérimentées. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est des personnes en qui j'avais confiance, avec qui je me sentais en sécurité. Toujours bien être équipé de lumière, parce que quand on visite des lieux abandonnés, il y a des trous au sol, le plafond peut être instable, il peut y avoir des éléments qui dépassent, on peut vite se blesser en fait. Ensuite, c'est ne jamais faire des choses qu'on ne sent pas. Parfois, on peut y aller avec des copains, on peut se sentir poussé par l'effet de groupe. Ne jamais avoir d'excès de confiance non plus. Et puis ensuite, concernant l'accès, ne pas y aller si c'est gardienné, si c'est sous alarme, si c'est sous vidéosurveillance. Et quand on partage cette passion, ne pas donner l'adresse des lieux, ne rien voler sur place, ne rien dégrader, laisser le lieu tel qu'il était. Voilà, tout simplement. Mais c'est beaucoup de bon sens. Après, ça peut paraître évident, mais toujours bien de le rappeler.
Bonne foulée quand même, hein ?
Ouais, ouais.
Tu fais combien de kilomètres à peu près ?
Ça dépend du temps que j'ai, de ma forme. Entre 6 et 21 km. Parce que si dans un mois on doit partir faire une expédition et marcher 50 km d'affilée, on doit en être capable sans ne pas le sentir en fait. C'est toujours ça le truc, quand tu fais quelque chose, il faut toujours être prêt.
Avec le chien d'une joggeuse.
On aime bien venir ici, passer un moment et faire un petit feu en haut de la colline, un petit feu, un petit barbecue quand le temps s'y prête. Et c'est vrai qu'on faisait ça assez régulièrement avec Florian, des fois plusieurs fois par semaine, où ça nous permettait voilà, de faire un break dans le boulot, de faire une pause et puis de se déconnecter un petit peu, de discuter, de parler de tout et rien. Et on venait voilà, en haut de la colline, un peu en mode un peu comme une retraite finalement. Et c'était notre petit rituel du Mont Saint-Quentin.
Donc là on arrive aux premiers éléments de fortification qu'on croise sur notre chemin pour aller au camp là où on a l'habitude de faire un feu. Et donc si on baisse le regard et qu'on regarde dans nos pieds, on voit qu'on suit des rails en fait qui servaient à faire rouler des chariots pour acheminer des charges lourdes. Et donc on va passer une première porte, un premier portail. Et donc là c'est déjà une première casemate, on va entendre le son de ma voix à fur et à mesure qu'on rentre dedans, qui va changer puisqu'il va y avoir un écho. Tout est en pierre, maintenant c'est couvert de tags à l'intérieur.
Les premières fois qu'on a fait le Mont Saint-Quentin, là où on est et là où il y a eu la plus grande peur de ma vie, à deux, on l'a fait de nuit et on l'a fait sans lumière. C'est-à-dire qu'on prenait plaisir à éteindre nos lumières, nos lampes frontales, nos lampes torches, les flashs des téléphones ou quoi que ce soit, et se laisser plonger dans le noir. Et la première fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment eu peur. C'était un moment de peur assez intense. Mais jamais d'énormes frayeurs.
Et pour allumer, en tout cas,
c'est bon, ça.
Il vaut mieux partir petit.
Ouais.
Ça a rien de trop en mettre. Il faut que ce soit malgré tout aéré. Mais là, c'est galère parce qu'il fait quand même super humide.
Et c'est fragile. C'est vrai qu'une fois qu'on est autour du feu, on aime bien se raconter des histoires. C'est d'ailleurs ça qui faisait que ce lieu faisait tellement peur au début, c'est qu'on aimait bien se raconter cette légende qui a assassiné son ex-femme ici. Quand on venait là, on est
était du coup plus serein.
Je pense qu'il faut souffler.
C'est vrai que c'est vraiment le feu, je pourrais y rester des heures à côté. Comme quand j'étais petit, je restais à côté de la cheminée.
Puis c'est aussi un sorte de surtout dans des conditions humides, un petit défi de groupe. Tout le monde est affairé autour de ce défi et quand il est lancé, tout le monde est content.
Et puis bon, quand on va manger, quand on fait cuire des trucs autour, ouais. c'est aussi c'est un peu festif. Quand on fait nos barbecues nature, ça rajoute un aspect festif. Le feu, c'est vraiment une composante essentielle de l'aventure et de la survie. On voit pas de récit d'aventure sans bon feu.
Hey Fantine, ouais. Là on serait vraiment des explorateurs et des exploratrices dans des souterrains abandonnés.
On n'a qu'à dire que on est des explorateurs, c'est quelque chose de très fort et je pense que ça nous habite tous un petit peu. Que ce soit dans la pratique de l'exploration ou même dans des choses plus personnelles. Moi, par exemple, j'aime beaucoup jouer à Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. Et le principe de base du jeu de rôle, c'est de se dire qu'on n'a qu'à dire que je suis un magicien, un détective. Et finalement, ça renvoie un petit peu à ça. On se met dans un rôle, on vit des aventures un peu comme des gamins, exactement comme des gamins. Et c'est vrai que ça fait beaucoup écho avec ma pratique des jeux de rôle, par exemple. Cette façon de jouer, de s'imaginer des choses, je pense que c'est pas forcément une enfance qui est perdue, mais c'est simplement qu'on peut, avec cette sensation, retoucher du doigt quelque chose qu'on se dit, une fois qu'on grandit, on ne le vit plus. C'est vrai qu'on se voit mal courir partout en jouant au loup-garou, en se disant « t'es le loup-garou », alors qu'on est des adultes, et avec cette pratique, t'arrives un petit peu à retoucher du doigt ce genre de sensation. Où tu te mets dans la peau de quelqu'un, tu vis des aventures, effectivement, oui, du coup, tu sors complètement du quotidien.
Oh, putain! Oh, vache! C'est une bûche?
Ah ouais? Bûche qui a pété, ouais.
Oh, vache!
Là, à notre gauche, il y a un grand édifice qui se dresse, qui a été complètement recouvert par la végétation. Et on peut le voir, architecturalement, il était assez travaillé. Là-bas, on voit une petite échauguette devant nous. Alors, c'est une espèce de petite excroissance du rempart, on va dire. Donc, une minuscule tourelle qui permettait à une personne de prendre place à l'intérieur. C'était alors fut un temps c'était défensif, je pense que ça a aussi un rôle décoratif, mais ça prouve qu'il y avait toute une attention qui était portée à l'architecture du lieu. Et là on arrive devant cette grande porte avec une voûte par au-dessus et une sorte de petite rosace dessinée creusée dans le rocher de façon assez délicate. Finalement, au-dessus, on a deux fenêtres et en dessous, une grosse porte métallique. Et donc, on va s'enfoncer entre ces deux portes métalliques qui ont été entrouvertes et qui, je pense, ne bougent plus. Retour au sec.
Donc là, on est dans une pièce souterraine qui est recouverte de suie. Ça a dû brûler tout ça à l'intérieur. Et on aime beaucoup cette pièce parce qu'il y a une réverbération, une résonance assez incroyable. C'est pour ça qu'entre nous, on appelle ce lieu la cathédrale.
Alors, c'est... Avant de se séparer, parce qu'en fait, c'était notre deuxième expédition dans un lieu abandonné. Et avec vous, j'ai l'impression que l'oubli est en train de ressurgir pour redonner un peu de mémoire à ces lieux abandonnés. Et faire vivre un lieu comme ça, ça procure en vous des choses particulières encore.
Je pense que n'importe quel lieu, à terme, pourrait devenir comme le Mont-Saint-Quentin aujourd'hui, c'est-à-dire vide de tout, une simple carcasse qui fait écho de son histoire. Et finalement, se balader ici, c'est un peu remettre un pied dans le passé, s'imaginer ce que les personnes y vivaient, ce que les personnes y faisaient, pourquoi le lieu est ainsi fait. Et en fait, chaque lieu a une histoire qui est intéressante non seulement de raconter, mais de découvrir aussi. Parce qu'on en apprend pas mal, justement, nous-mêmes, en faisant des recherches, en s'interrogeant sur la nature des lieux qu'on va explorer.
Après, on a chacun notre sentiment par rapport à l'histoire, mais c'est vrai que moi, j'ai d'abord commencé à visiter ces lieux pour la sensation. C'était d'abord dans un but de rechercher un peu une sensation particulière, un peu avoir de l'adrénaline. Mais du fait de le faire avec Florian et Julien, c'est vrai que l'histoire à laquelle je ne me serais pas forcément intéressé, comme ils sont là et qu'ils me la racontent, ça me fait découvrir de nouvelles choses que j'aime. Et c'est bête, mais je ne me serais jamais imaginé m'intéresser à l'histoire de cette façon, et grâce à eux, je peux le faire.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Ce soir, je vous amène visiter un lieu historique abandonné. Les anciens, surtout. Bonjour à toutes et à tous les amis, et bienvenue dans ce hors-série
avec Florian, François et Julien.
Merci à Jordan, merci à Francine et à Tom d'avoir joué à On dirait que...
Je suis ici dans une ceinture de fortifications de la ville de Metz, non loin de la ville de Metz. Il faut savoir que la ville de Metz, en fait, c'était...
Et tu sais, il y avait aussi Fabien Gosset, tu sais, qui faisait la prise de son.
Mixage.
Ah oui, c'était cool.
Pierre Richard. Musique originale et réalisation, Gilles Mardi-Rossian.
Attaché d'émission,
Chouchane Djergaïo. Productrice coordinatrice, Irène Omedinenko.
Donc, je pense que je vais bien flipper, mais vous allez voir. Ah, la chouette! Vous avez entendu ça? Bon, j'ai pas peur des chouettes. J'ai peur des souris, des rats et des fous.
Vous pouvez réécouter à vie ou podcaster un an sur notre site cette émission. Demain, dans Création On Air, louer son corps pour transporter de la drogue, Correos de Droga, par Amandine Casadamon et Manouchak Fachaï. Et tout de suite, Philippe Garbi vous entraîne dans les nuits de France Culture.